La semaine, elle, c'est du 2 au 12 mars à Blois.
Et sur Studio Z. Studio Z, c'est une programmation spéciale autour des femmes et du féminisme. Retrouvez de nombreuses émissions qui abordent le sujet entre musique, société et culture.
Bon, la première qui pourrait venir en tête, c'est Athéna. Quasiment toutes les femmes un peu guerrières ont quand même des rapports avec elle. Et en plus, elle est la représentation de la guerre intelligente. C'est une femme qui fait la guerre, mais qui en plus est meilleure que l'homme.
Studio Z aura également le privilège de recevoir la marraine de cette édition, la gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes, Rada Atem Ganzer, lors d'un direct exceptionnel depuis l'espace Georges Champrun, jeudi 2 mars à 19h30.
Mon plus grand rêve serait de redonner du pouvoir, de l'autonomie aux femmes et à celles qui n'ont ni pouvoir, ni autonomie, ni choix de leur destin, qui sont des moins que rien de l'humanité.
Retrouvez toutes les infos sur studiozef.fr.
La semaine, elle, c'est du 2 au 12 mars à Blois et sur Studio Z.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Studio Z. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes en direct depuis l'espace Georges Semprin dans les quartiers nord de Blois pour le lancement de la semaine L. Je suis avec Lola. Qu'est-ce que c'est, Lola, la semaine L ?
Eh bien, merci de poser la question, Mélanie. La semaine L, ça prolonge la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La semaine L a été initialement créée pour fédérer les associations blaisoises autour du droit des femmes. Et d'ailleurs, Studio Z s'associe largement, comme vous venez de l'entendre, et se transforme pendant la dizaine de jours de l'événement en programmant des émissions thématiques. Quoi de plus naturel alors que de pouvoir que de devenir pour cette période Studio Z ?
Avec nous sur ce plateau, donc la marraine de cette 14e édition, Rada Atem Ganzer, fondatrice et gynécologue obstétricienne de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Bonsoir Rada.
Bonsoir.
Et avec nous aussi Christelle Leclerc, élue à l'intégration républicaine, l'égalité, les droits des femmes et à la mémoire. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Et enfin Maïté et Gaëlle du collectif de l'Âtre qui, par l'initiative de l'association Femmes 41, a fait une création sur mesure pour cette soirée d'inauguration. Bonsoir à vous deux, Maïté et Gaëlle.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le collectif de l'Âtre ?
Donc le collectif de l'Âtre, c'est une compagnie iséroise qui a 20 ans cette année, qui est née à Montpellier et qui travaille notamment sur les sujets d'égalité femmes-hommes, mais pas que, sur plein de thématiques sociales. Et on intervient en créant des spectacles, mais aussi en faisant du théâtre action, du théâtre forum et des ateliers, notamment avec des scolaires, avec des centres sociaux, des maisons médicales et plein d'autres interlocuteurs et interlocutrices.
Très bien. Et donc là, le spectacle, il a été créé sur mesure par rapport au thème de la semaine L de cette année, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez travaillé ?
Oui, alors je vais commencer. En fait, moi, je fais partie du collectif de l'Âtre depuis 3 ans. Et du coup, le collectif Femmes 41 a appelé Hélène Grange, qui est la directrice du collectif de l'Âtre et qui... voilà, qui n'avait pas le temps à ce moment-là de s'en occuper elle-même. Et du coup, comme je fais partie des comédiennes sur la thématique féministe de l'association, elle m'a dit, eh ben, est-ce que ça t'intéresserait de faire ce spectacle sur les femmes guerrières, en me laissant le choix de ce dont j'allais parler et de qui, avec qui j'allais pouvoir travailler, avec du coup un certain nombre de contraintes. Donc cette thématique des femmes guerrières, des femmes en armes spécifiquement, et d'être maximum 3 dans l'équipe. À la base, 3 sur scène. Moi, j'ai dit, je me sens plus à l'aise en ayant quelqu'un à la technique aussi. Donc, un technicien, une technicienne. Là, il se trouve que c'est Antoine qui est actuellement à la régie et qu'on salue. Et ensuite, je me suis adressée à Gaëlle, qui est une amie dans la vie et qui est aussi comédienne et voilà, avec qui j'avais envie de travailler depuis un moment. Et je vais te laisser continuer, peut-être.
Que dire de plus ? Moi, c'est la première fois que je travaille avec le collectif de l'Âtre, du coup, grâce à ton invitation, Maïté. Et j'avais fait un peu de théâtre forum interactif sur des thèmes de sexisme aussi. Et par rapport à... Parce que c'était ça la question, comment on a fait pour le processus de création. On a commencé par la recherche, en fait. On a essayé de se demander de quoi on avait envie de parler. Qu'est-ce que ça voulait dire être guerrier, être guerrière ? Quel sens on voulait prendre ? Puisque ça peut être se battre littéralement, mais il y a bien d'autres. Je pense que tout le monde ici et sait qu'il y a bien d'autres manières de résister, encore plus en tant que femme. Donc on s'est demandé ça, qu'est-ce qu'on voulait se dire, et on a cherché des exemples qui nous parlaient. Ça nous a amené sur qu'est-ce que c'est la féminité au cours de l'histoire, ça nous a amené sur des questions comme ça. Et on est parti sur un format, ben, je ne vais pas trop en dire puisqu'on la montre juste après, mais sur un déroulé de cette histoire des femmes.
Eh ben, on a hâte de voir ça. En tout cas, bravo à vous et merci d'être là. On va vous laisser peut-être regagner vos loges pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour la représentation qui va avoir lieu dans quelques minutes finalement.
Merci pour tout.
Merci, puis on vous retrouve après si vous avez des questions. Oui, il y aura un bord de scène où on revient. Voilà.
Très bien, à tout à l'heure.
On va en profiter pour accueillir sur ce plateau Marion Pouvreau, qui est sage-femme à la PMI de Blois, avec laquelle on discutera à la fin de l'émission, après nos échanges avec Rada Atemganzer. Bienvenue Marion.
Alors, Christelle, est-ce que, alors vous l'avez un petit peu dit sur votre discours inaugural, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce thème, comment il a été choisi et c'est quoi l'histoire de ce thème de cette année ?
Oui, effectivement, chaque année, on essaie d'avoir un thème, ce qui donne une forme de ligne fil rouge à la semaine L. On aime bien avoir une forme de mot un peu fort qui se décline ensuite. Donc là, cette année, effectivement, c'était femme guerrière, femme de combat, de l'Amazone à la femme d'aujourd'hui, pour être complet dans le thème. Ça a fait écho aussi à une conférence qui était à peu près sur ces mêmes thématiques de Isabelle Vrina, qui est une personne avec laquelle on travaille chaque année dans le cadre de la semaine L. C'était pas tout à fait ça le titre, mais voilà, on s'est approprié cette idée de la guerrière, et effectivement plutôt de la guerrière d'aujourd'hui, mais du quotidien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et on avait plus envie de parler de ça, même si on sait qu'il y a des femmes qui se battent vraiment armes à la main, que ce soit peut-être en Iran, peut-être les femmes kurdes, les femmes afghanes, on pense aussi aux ukrainiennes, on a beaucoup de sœurs qui vont pas bien en ce moment.
Rada Atemganzer, merci d'être sur ce plateau avec nous, et bienvenue à Blois. On a déjà dû vous souhaiter la bienvenue plusieurs fois, mais c'est notre tour maintenant. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez vous présenter, ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices, et nous présenter aussi très rapidement la maison des femmes que vous avez créée ?
Bien sûr. Bah, écoutez, je suis gynécologue obstétricienne, je crois qu'on l'a dit. Et ça veut dire que mon métier, c'est de travailler avec des femmes, principalement. Mais évidemment, les femmes ont des compagnons, elles ont des enfants, et ce qui m'amène à être médecin parfois de la famille, et c'est très intéressant, mais en même temps ça me fait entrer dans l'intimité des familles, qui est parfois extrêmement triste, voire sordide, et c'est un petit peu par ce biais-là, donc de ce long compagnonnage, ça fait presque 40 ans que j'exerce et que je consulte et que j'accouche, et etc., avec mes patientes qui sont parfois devenues presque des amies, parfois je me suis occupée de la maman, de la fille, j'ai prescrit la première pilule à la gamine que j'avais mise au monde 15 ans avant, enfin voilà, c'est un métier passionnant. Et le fait d'être comme ça dans l'intimité de ces femmes, ça m'a fait prendre conscience, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on nous enseigne à la faculté de médecine, ni ailleurs, que eh bien, derrière le côté extrêmement magnifique du couple, de la famille, de l'amour maternel, eh bien, il se cache des choses autrement plus noires. Et que, en fait, les patientes que j'avais, qui parfois étaient de milieux sociaux très aisés, avaient fait de très hautes études, étaient pédigettes, avocates, médecins, eh bien, elles étaient, malgré tout, sous l'emprise d'un homme. Ça paraît difficile à concevoir quand on ne s'est pas intéressé au sujet, parce qu'on a, avec notre gros bon sens paysan, on se dit, bah, elle a qu'à s'en aller, si elle reste, c'est qu'elle aime les coups, et bah, elle gagne bien sa vie, pourquoi elle est là ? Des tas de choses auxquelles, finalement, on a des réponses, mais il faut connaître le sujet. Et donc, je me suis dit, mais je ne comprends pas, il faut que je comprenne. Et j'ai commencé à... Bon, j'ai fait quelques formations, et j'ai très rapidement compris qu'en fait, oui, on peut subir des coups pendant 20 ans, et ne pas partir, pour mille et une raisons. Parce que, bah, d'abord, nous, les femmes, on a été quand même un petit peu formatées, famille, patrie, etc. Et que quand on choisit un homme et qu'on fonde une famille, on n'a pas du tout envie de la faire exploser. Et donc, on est prêt à faire tout un tas de sacrifices, parfois au détriment de tout le monde. Et donc, il faut que les femmes, en fait, s'autorisent à dire, ben non, la famille idéale que j'ai rêvée, elle n'existe pas. Et ce n'est pas en étant encore plus gentille, et encore plus sexy, et encore faisant encore plus la cuisine, et en faisant un sixième enfant, que je vais arriver à convaincre mon mari de changer du tout au tout, et que peut-être je ferais mieux de partir. Mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'elles sont souvent encore amoureuses, parce qu'elles ne veulent pas priver leur enfant de leur papa, parce que toute la famille est là à dire « Ah ben non, tu ne vas pas divorcer, ça ne se fait pas chez nous, et tu ne vas pas envoyer le père de tes enfants en prison, enfin pense un peu. » Et on est complètement mais scotché là-dedans, à tel point qu'on vient enfin d'avoir une loi intelligente qui permet de déchoir le mari assassin ou ultra-violent de son autorité parentale. Imaginez, l'année dernière, vous pouviez tuer votre femme, je ne vous le conseille pas, mais, et du fond de votre prison, décider que non, votre enfant n'aurait pas eu besoin d'une psychothérapie et qu'il devait venir vous voir au parloir toutes les semaines, même si lui, au fond de lui, il vous déteste. Et ça, ce n'est pas normal, parce qu'en plus, on détruit les enfants. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sinon on va passer la soirée là-dessus. Mais voilà. Et je me suis dit, si on voulait donner une chance, un espace, une respiration, des armes, on parle de guerre, pour s'en sortir, eh bien, peut-être qu'il fallait inventer un lieu. En médecine, on crée des lieux pour ceci, pour cela, pour les aidants, pour l'Alzheimer, pour la stérilité. Pourquoi pas un lieu pour la violence? C'est un peu comme ça que j'ai conçu ma maison, qui est une maison de soins. Voilà, je vais m'arrêter, sinon on va déflorer tous les sujets.
C'est une maison de soins, c'est une maison, mais par contre, il n'y a pas d'hébergement, on est bien d'accord. C'est une maison de soins avec des médecins, avec toute une équipe de médecins derrière.
Oui, et puis avec des policiers présents une fois par semaine, avec des juristes, des avocats, des travailleurs sociaux, des profs de yoga, de karaté, tout ce que vous voulez. On ne dort pas sur place, parce qu'en fait, on est une unité de soins de l'hôpital, mais on a créé, parce que c'est très important, l'hébergement. Et en venant, j'ai appris que vous aviez beaucoup de foyers, par exemple, pour femmes migrantes, et bravo. On a créé un foyer pour jeunes filles de 18 à 25 ans, sans enfants. Ce sont des jeunes filles qui, en grande partie, soit sont migrantes, soit ont été placées à l'ASE pour des violences familiales. Donc, je vous laisse imaginer dans quel état elles sont. Elles sont complètement détruites, déstructurées. Elles ont besoin d'un cadre. Moi, j'ai eu 3 enfants. L'adolescence, c'est pas facile, mais l'adolescence de ces gamines-là, c'est vraiment 2 éducateurs, 3 travailleurs sociaux, une directrice, ça ne suffit pas.
Moi, je vais profiter pour rebondir sur une question que je souhaitais vous poser. Par rapport aux professionnels de santé dont vous parlez, est-ce que vous pensez, je crois l'avoir entendu, qu'ils devraient s'intéresser à la violence subie par leurs patients? Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là, qu'est-ce qui vous questionne là-dessus?
Eh bien, c'était quelque chose qui ne m'était pas naturel, puisque moi, au début, je ne demandais même pas à mes patientes ce qu'elles vivaient à la maison, puisque je me disais, bon, elle a l'air d'aller bien, ça doit être sympa, son mari, ah oui, l'avocat, super. Elle me parlait de ses vacances aux Bahamas, et moi, comme une imbécile, je trouvais le tableau merveilleux. Et en fait, les femmes, elles parlent quand vous leur posez la question. Et c'est ce qu'on a découvert, c'est ce qu'on appelle le questionnement systématique. Et une femme, elle ne va peut-être pas aller au commissariat, mais si son médecin lui dit « je trouve que ça, vous n'avez pas l'air d'aller très bien là, vous m'avez dit que vous avez mal à la tête, au ventre, au dos, vous êtes allé 3 fois aux urgences la semaine dernière, comment ça va à la maison ?» Eh bien parfois cette question toute bête peut ouvrir les vannes et amener cette femme qui finalement pensait qu'elle pouvait en parler à personne et surtout pas à sa famille, à le confier à son médecin. Et nous sommes finalement les premiers dépositaires de cette parole. Et j'irai même encore plus loin. Tout le monde a un médecin traitant aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, qui a un conjoint violent, ce conjoint a un médecin traitant. Et il faut que le médecin traitant s'occupe de cet homme agresseur, violent, peut-être addict à l'alcool, à la drogue, peut-être chômeur, peut-être violé par son papa, peu importe, et qui ne sait pas gérer ses émotions, et qui les gère en tapant sa femme et ses enfants. C'est, je pense, une partie de notre métier.
Et pour ça, est-ce que ça nécessiterait ça nécessite une formation en plus pour les médecins, justement, de détection de ces violences?
Ben oui, puisque l'école, la fac, n'a pas encore décidé de nous former complètement. Oui. Ce qui fait que nous formons énormément de médecins, de policiers, de magistrats, d'infirmières, de sages-femmes. Tout ça parce que c'est la base.
Et alors, quelles sont les ressources globalement qu'on peut mobiliser ou quelle organisation on peut mettre en place pour lutter contre tout ça? Donc vous avez pris une première place avec cette Maison des Femmes, mais il n'y en a pas partout. Est-ce que... Voilà.
Eh bien, il devrait y en avoir partout, madame.
Bon, on avance, madame.
Non, mais je pense que déjà prendre la mesure du problème et se dire que ben, s'il y a 125 femmes qui sont tuées chaque année par leur conjoint, 250 femmes qui se suicident à cause de leur conjoint, qu'il faut rajouter à ces 125 femmes, ça fait déjà beaucoup de mortes. Et toutes ces mortes et ces presque mortes, elles ont un conjoint. Donc si déjà on s'occupe de ces gens-là, mais il faut beaucoup, beaucoup de moyens. Il faut mobiliser la justice, la police, les travailleurs sociaux, les éducateurs d'enfants, l'école, l'hébergement. Donc nous, on considère que ça, on est au carrefour de plusieurs ministères. La santé, le logement, l'intérieur, la justice, quoi d'autre, l'éducation. Et que tous ces ministères doivent travailler ensemble parce que notre objectif est le même. Si notre rôle est de faire tous ensemble des citoyens de demain qui sont en bonne santé, on a du boulot sur la planche.
Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les groupes locaux de traitement de la délinquance. On a ça à Blois, effectivement, dans le cadre des violences intrafamiliales et plusieurs types de personnes, que ce soit au niveau de la justice, de la police, de la santé, etc. Et du mode éducatif, sont mobilisés autour de ces prises en charge-là, des femmes qui viennent toquer à la porte. Et il y a un réseau qui prend en charge, piloté par la procureure de la République, effectivement.
Super.
Et vous parliez donc de la justice et de la police. Est-ce que, donc, je crois avoir compris que c'est vos équipes qui forment les policiers et les policières qui sont volontaires une fois par semaine à la Maison des Femmes, c'est bien ça ?
Alors, ces policiers bénéficient, ils ont déjà été formés avant de devenir policiers, et là, ils ont 3 jours de perfectionnement. Et on participe à ces 3 jours de perfectionnement, y compris pour leur expliquer comment on travaille. Mais c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'on a eu des policiers, de manière tout à fait volontaire, qui demandaient à être en immersion chez nous. Et au bout de la semaine, ils m'écrivaient toujours à peu près le même message. « Merci de m'avoir ouvert votre porte. Je crois que j'ai compris ce qu'était une victime et je crois que je n'exercerai plus mon métier de la même façon. » Et donc, ça m'amène à dire qu'il faudrait que les policiers aille un petit peu se frotter aux victimes, ailleurs que dans les commissariats.
Donc là, on parlerait de prévention plutôt, presque.
C'est une forme de prévention. En tout cas, c'est une forme de prévention de la survictimisation. Parce que être mal accueilli dans un commissariat, se faire presque engueuler parce qu'on est un peu responsable de ce qui nous arrive, c'est insupportable. Et ça rajoute, en fait, de la douleur à la douleur.
Et globalement, quelles seraient les pistes pour lutter, au moins, pour faire de la prévention dans ce domaine-là? Vous avez des pistes à nous aider, à nous fournir?
Une seule piste, l'éducation. Mmh. Une seule piste, les enfants. Éduquer les enfants, protéger les enfants et éduquer les parents à ne pas violenter les enfants. Si on fait ça déjà...
Tout à fait. Et en matière de prévention, justement, normalement, depuis 2001, doivent être réalisées 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle obligatoirement par niveau, que ce soit de l'école, au collège ou au lycée. Et ce n'est malheureusement pas tout à fait mis en place. Et aujourd'hui, il y a 3 associations qui sont donc... Le planning familial, SOS Homophobie et le site d'action qui ont décidé d'assigner l'État en justice pour saisir le tribunal administratif justement de Paris pour demander l'application pleine et entière de la loi de 2001. Donc, comme je disais, 3 séances annuelles d'éducation pour les écoles, les collèges et les lycées. Et ce serait déjà pas mal de démarrer par là, effectivement.
Alors c'est juste un peu dommage parce qu'il y a un mois, le ministère de l'Éducation a mis en place un groupe de travail avec toutes ces associations et nous, pour justement travailler à rendre effective cette loi qui se heurte à plein de blocages. Les parents qui ont peur qu'on apprenne à leurs enfants à devenir, je sais pas moi, homosexuels ou à se masturber ou complètement fous. Les enseignants qui sont pas à l'aise et les directeurs qui ont peur de tout et qui donc ne les mettent pas en place. Mais on va y arriver.
Oui, bien sûr.
On a vu également que, et vous l'avez dit, à la Maison des Femmes, il n'y a pas seulement une équipe médicale en son sein, mais aussi une équipe artistique et sociale. Et comment vous expliquez ou quel regard vous avez sur la pratique artistique dans la réparation des corps et des cœurs des femmes qui sont accueillies ?
Mais en fait, les femmes qui sont victimes de violences, on parle beaucoup de violences physiques, de coups, d'œil au beurre noir. Il faut savoir qu'il n'y a pas de violence physique qui ne soit précédée par des années de violences psychologiques. Et les agresseurs sont extrêmement doués. Ils sont doués pour détruire leurs victimes psychologiquement. Et ce sont des femmes qu'on a persuadées qu'elles ne valaient rien, parce qu'à force de se l'entendre dire pendant 20 ans qu'on était une mauvaise mère, qu'on ne savait pas faire la cuisine, qu'on gagnait à peine de quoi payer la babysitter, etc., etc., bah, vous finissez par croire à ce discours et par le faire vôtre. Et votre agresseur, il est dans votre tête à la fin. Ce qui fait que vous pensez que vous ne valez rien, que vous ne savez rien faire. Et quand on vous ouvre des champs possibles comme de l'art-thérapie, de la danse, de la musique, du karaté, eh bien, petit à petit, vous reprenez confiance en vous et ça se voit physiquement, en fait, sur la tête des femmes. En 6 mois de pratique d'un de nos ateliers, elles changent complètement. Et un atelier aussi auquel je ne savais pas trop quoi en penser, l'atelier jardinage, on a beaucoup de femmes migrantes. Ce sont des femmes, chez elles, elles sont maraîchères, elles cultivent, la terre, c'est leur truc. Et là, brutalement, elles savaient faire un truc mieux que les Françaises et elles leur apprenaient, c'était assez magique.
Le temps de boire un petit peu d'eau. Mais effectivement, il y a une chose qui est très très importante quand malheureusement les femmes sont victimes de violences. Vous parliez tout à l'heure d'emprise et que c'est un schéma qui s'installe, c'est extrêmement long. En moyenne, c'est 7 allers-retours pour quitter définitivement le foyer, pour quitter définitivement le conjoint violent. Et donc du coup, parfois il y a une sorte de dissociation qui s'exerce. Donc effectivement, par le biais des pratiques artistiques, c'est très important qu'il y ait une reconnexion au corps, de se réapproprier son corps, de se sentir légitime. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, quand on a entendu pendant des années qu'on ne valait rien, se sentir légitime de pouvoir entreprendre des choses, c'est quand même vraiment pas facile. À la Maison des Femmes, vous formez des gens, mais vous avez une formation qui s'appelle In Vivo, c'est bien ça ? C'est pour des professionnels, n'importe quel professionnel ?
Pas que, tous les gens que la violence intéresse. Alors pour la petite histoire, on avait appelé ça In Vivo parce qu'on pensait qu'on aurait 10 inscrits et que bon, on les accueillerait à la Maison des Femmes, elles viendraient avec nous en consultation. La première année, on avait 60, 80, 150. Donc le In Vivo ne s'applique plus tout à fait, mais on a gardé le nom. Et on a de tout, on a des instits, des éduques, des flics. Ce qui est très très triste quand même, je vous l'avoue, c'est que les bonnes années, on a 2 mecs. Les mauvaises, on n'en a pas, c'est horrible.
Oui, il serait temps que tout le monde, tous, puisse s'emparer justement de ces questions-là.
Et les professionnels et toutes les personnes qui viennent à ces formations-là, elles viennent avec quelles attentes ?
C'est très divers. Il y a des gens qui viennent dans l'idée, l'espoir de s'emparer du sujet, par exemple, et de créer une maison des femmes dans leur ville. Et ça, nous, ça nous fait super plaisir parce qu'on accompagne ces équipes. Il y en a, enfin, on a ouvert aujourd'hui 14 maisons comme la nôtre.
Bravo.
Et on en a 10 en gestation. Donc ça, ça nous fait vraiment très plaisir. Après, il y a des gens qui veulent apprendre dans leur pratique. Comment je parle à une femme, qu'est-ce que je fais si elle se met à pleurer. Il y a encore des gens, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui se disent, si je demande à une femme comment ça va à la maison et qu'elle commence à me raconter des horreurs, qu'est-ce que je fais? Elle va peut-être se suicider, elle va peut-être pleurer pendant 1 heure dans mon cabinet. Et donc effectivement, il y a des façons de faire pour rassurer ces soignants, leur dire non, en fait, elle va pas se suicider, je te le promets. Et même si elle pleure, c'est pas grave, parfois elle a jamais l'occasion de pleurer devant quelqu'un. Et si tu as un bon réseau, tu vas pouvoir l'orienter et elle ne va pas passer la journée dans ton cabinet.
Merci en tout cas pour tout ça.
On a vu sur le très beau site de la Maison des Femmes de Saint-Denis qu'il y avait un petit podcast qui pouvait s'écouter comme nous sommes en direct sur Studio Zelle. Du coup, c'est un podcast qui s'appelle donc Réparer les violences. Il y a 6 épisodes de 15 minutes. Donc ça a été fait, ça a été créé au sein de la Maison des Femmes pour pouvoir expliquer un peu ce qui s'y fait.
Oui, l'idée était de vivre en immersion avec nous, un peu. Et j'étais un peu dubitative. Et en fait, ce podcast a un gros succès. Les gens sont très heureux. Il y a une séquence au bloc opératoire, on a l'impression d'y être. Et finalement, ça aide bien à démocratiser la connaissance sur le sujet.
Tout à fait, oui. C'est un média qui est pris et utilisé de plus en plus, et c'est tant mieux, ça permet de faire passer plein de messages.
Donc il y a une personne dans le public qui demande s'il y a un numéro à appeler pour joindre la Maison des Femmes, c'est ça ? Si on veut peut-être signaler une situation ou si on est dans une situation.
Alors oui, bien sûr, il y a notre standard. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un mail. Vous pouvez appeler le 3919 aussi, qui est le numéro national. Il faut juste savoir une chose qui est extrêmement frustrante. On a beaucoup de femmes qui nous disent « ma copine, ma voisine, ma cousine, je ne sais pas quoi faire, j'ai beau lui expliquer, j'ai peur ». On ne peut pas obliger une femme qui n'est pas prête à se faire aider. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Nous, les médecins, la loi a changé il y a 2 ans. On a pour la première fois le droit de dénoncer, de signaler au procureur une situation, même quand la patiente ne le souhaite pas, ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Il faut 2 raisons. Qu'on ait très très peur pour elle, donc qu'il y ait une vraie menace pour sa vie, et qu'elle soit sous emprise, donc incapable elle-même de se protéger. Et si ces 2 conditions sont réunies, on peut signaler au procureur et on n'ira pas en prison pour avoir rompu le secret professionnel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut accompagner en fait vos proches, leur ouvrir la porte, leur montrer que vous êtes là, que vous comprenez, qu'ils peuvent vous demander tout et n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas les aider à changer à leur place.
Donc au niveau national, effectivement, il y a le 3919, et puis au niveau local, ici, dans le Loir-et-Cher et notamment à Blois, il y a plusieurs associations qui peuvent accompagner, qui peuvent aider. Il y a France Victime, il y a aussi le planning familial qui peut accompagner, qui peut écouter.
Le collectif aux droits des femmes.
Tout à fait, le collectif aux droits des femmes.
Le CIDFF.
Le CIDFF, donc le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Voilà, il y a tout un tas de personnes qui peuvent écouter et qui peuvent recevoir.
Et puis après, tous les foyers, effectivement, qui accompagnent, tout la SLD, etc. Et quand quelqu'un pose ce genre de problème sur le tapis, tout le groupe dont je parlais tout à l'heure, le groupe local de traitement de la délinquance, est averti. Et après, ça fait du relais. Et on va savoir à quelle porte taper pour aider la femme concernée ou la personne concernée.
Tout à fait. Dans l'association de la SLD, il y a 2 femmes qui sont référentes violence. Et d'ailleurs, je me permets de saluer leur travail. Elles font un travail formidable. En tout cas, ici à Blois.
On va accueillir Marion et discuter un peu avec toi. Alors, tu es sage-femme à la PMI de Blois, c'est ça ? Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ?
Alors, la PMI, je ne sais pas si tout le monde connaît. La PMI, ça dépend du conseil départemental. C'est un des services du conseil départemental. Ça signifie protection maternelle et infantile. Donc, on est une grande équipe. Et on a, sur le terrain, on a beaucoup de professionnels. Moi, je travaille beaucoup avec les puéricultrices de PMI, les médecins de PMI qui vaccinent, qui voient les enfants jusqu'à 6 ans. Voilà. Les sages-femmes de PMI, qu'est-ce qu'on fait par rapport à des sages-femmes de l'hôpital ? Parce que beaucoup de gens connaissent les sages-femmes quand ils ont un enfant. Donc nous, les sages-femmes de PMI, ben, on fait la même chose, mais sauf qu'on ne fait pas d'accouchement, puisque dans les PMI, on ne fait pas d'accouchement. Et donc on fait des consultations de grossesse, des consultations obstétricales, on fait du suivi postnatal immédiat jusqu'aux 28 jours du bébé, on peut examiner les bébés et les mamans. Après, on continue à s'occuper des mamans, puisqu'il y a des nouveaux examens qui ont été mis en place récemment, l'examen postnatal précoce pour le dépistage de la dépression du postpartum. Et puis on fait aussi le suivi gynécologique de prévention tout au long de la vie de la femme. Donc en fait, on est des interlocuteurs qui pouvons être présents dans la vie des femmes. Et alors, quand vous parliez tout à l'heure de formation, ça m'a fait penser au moment où moi j'ai pris conscience des violences faites aux femmes, parce qu'à l'école de sage-femme, moi je suis sortie en 2002, ben on n'en parlait pas en fait, rien. Et en 2010, j'ai eu la chance de faire un diplôme interuniversitaire de régulation des naissances. Et en fait, les filles qui sont venues nous parler de ça, c'était des militantes du mouvement français pour le planning familial. Et en fait, moi, je suis sortie et j'ai vomi. tellement je me suis dit, mais alors ça faisait déjà 10 ans que j'exerçais, c'est pas possible, je suis passée à côté de tout ça. Ça a été très 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 violent. Bon, après du coup, voilà, maintenant c'est plus un problème. Et puis voilà, les formations multiples que j'ai pu suivre m'ont beaucoup aidée. Et puis c'est à force de demander aux dames et de les accompagner qu'on devient aussi un peu plus expert. Mais pour en revenir à notre sujet de parentalité, en fait, puisque les dames que, du coup, à la PMI, nous, on suit, c'est des dames qui ont des enfants, des familles qui ont des enfants. Bon, après, moi, je suis sage-femme, alors je vois plus les dames. C'est des dames qui ont donc vécu, souvent, qui ont vécu des violences, mais pas que. Il y a des dames qui n'ont pas vécu de violences. Et donc, en fait, on intervient pour essayer de faire ce qu'on peut. Alors nous, on n'a pas, voilà, on est à la PMI, on fait tout ce qu'on peut. On n'a pas une équipe avec de quoi reconstruire les femmes. Là, en ce moment, ça va arriver. Mais donc, on essaye de les aider. Durant la grossesse, on peut orienter vers des structures de soins pour qu'elles aient... alors moi, je parle surtout des violences qu'elles ont passées, parce que les dames qui ont vécu des violences, elles peuvent avoir un syndrome de stress post-traumatique, donc un stress qui reste, quelque chose que le cerveau n'arrive pas à gérer, des images, des souvenirs qui sont un peu dans le cerveau mais pas rangés et qui peuvent revenir n'importe quand. Donc, quand on est enceinte ou qu'on a un bébé, eh ben, des fois, les mamans sont avec ses souvenirs et s'occupent pas forcément du bébé. On parle de visage lisse. On peut s'imaginer une maman qui est perdue dans ses souvenirs, dans ses traumas, et le bébé est à côté et a du mal à établir un lien avec sa maman. Donc nous, notre travail de quotidien, c'est beaucoup pouvoir aider ces femmes, étayer tout ce qu'on peut pour que le traumatisme ne se transmette pas de maman à enfant et que les enfants se développent bien.
Et que ça ne puisse pas se transmettre et éventuellement que cette femme puisse aussi assimiler, essayer de comprendre et peut-être être éventuellement accompagnée dans cette gestion de ce traumatisme justement qui ressurgit.
Oui, tout à fait. Mais ça peut prendre du temps.
Ouais,
parce que déjà, il faut que la dame soit d'accord.
Ouais.
Parce que parler des traumatismes, c'est violent. Les dames, elles revivent les traumatismes, donc il faut qu'elles soient d'accord, voilà. Et après, une fois qu'elles sont d'accord, il faut le temps que ça se fasse. Voilà. Mais bon, on travaille, on fait plein de choses. Donc voilà, les dames qu'on accompagne, on fait au mieux. Donc il y en a qui guérissent, mais c'est quand même difficile quand on a un syndrome de stress post-traumatique. Et que celui-ci est pris en charge juste au moment de la grossesse, c'est pas toutes les chances de son côté.
Mais c'est pour ça qu'il y a un délai, notamment pour le dépôt de plainte, par exemple, si on a besoin de déposer plainte ou si on souhaite déposer plainte contre son conjoint ou son ex-conjoint pour violence, il y a un délai de 30 ans à peu près. Et parce qu'effectivement, avec ces traumatismes qui peuvent être mis sous le tapis, qui peuvent ressurgir un peu à n'importe quel moment, et du coup, ça peut être 15 ans après. Bon, après, ça peut aussi être 30 ans après, au-delà de ce délai, mais c'est toujours ça de pris.
Alors, je voulais refaire du lien par rapport à ce qui se passe à la Maison des Femmes. C'est vrai que vous accueillez, vous, des femmes qui ont des enfants, mais pas seulement des femmes avec des enfants. Il y a aussi des femmes qui arrivent comme ça.
Oh, bien sûr. Mais bon, 90% des femmes ont des enfants.
D'accord.
Tôt ou tard. Juste une petite précision. Les 30 ans, c'est par rapport aux violences sexuelles, le délai qui a été augmenté. Je pense qu'il y a, pour les violences conjugales, c'est pas tout à fait pareil. Le problème, c'est les souvenirs et retrouver les preuves. Et c'est assez compliqué.
À la Maison des Femmes, juste dernière petite chose, il me semble que vous avez trois unités différentes. Donc l'unité de planification familiale, l'unité mutilation sexuelle et l'unité violence conjugale intrafamiliale. Ça a été créé dès le départ. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi trois unités dans chaque maison des femmes qui se sont ouvertes ?
Alors, on en a ouverte une quatrième, qui est l'unité viol. Parce qu'on est comme une unité médico-judiciaire. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles ont subi un viol, par exemple, elles vont aller à la maternité, parce qu'elles se disent, bon, il faut qu'on regarde, là. Et aux urgences de la maternité, on leur dit, non, madame, on ne va rien faire du tout, parce que si on vous met un spéculum, et on va détruire les preuves. Allez au commissariat, déposer plainte, et ensuite aller dans une unité médico-judiciaire, qui sont ces services à la limite entre la médecine et la justice, et où elles vont croiser des dealers de drogue, des mecs avec des plaies, elles n'ont pas envie d'y aller. Et le résultat, c'est qu'elles font rien. Elles rentrent chez elles, elles se prennent une douche et ça s'arrête là. Et donc l'idée, c'est de leur dire, si vous venez chez nous, on va vous examiner, on va faire tous les prélèvements de sperme, de peau, de trucs, de cheveux, de sang. Et puis vous pourrez prendre une douche après, on vous donnera des habits. On va garder vos habits parce que dans vos habits, il y a des traces d'ADN de l'agresseur. On va tout mettre sous scellé, congelé, etc. Si vous voulez déposer plainte, un policier vient. Si vous n'êtes pas prête, on va les garder 3 ans. Vous avez 3 ans pour changer d'avis. 3 ans parce qu'on ne peut pas les garder 150 ans, parce que la France serait pleine de congélos avec des pots de sperme. Ce n'est pas possible. Et ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent changer d'avis et que du coup, c'est beaucoup moins traumatisant. Donc elles vont plus volontiers vers ce genre de dispositif et j'espère que dans toutes les maisons des femmes, il y en aura. Ce sont les Belges qui ont commencé à faire ça et ça a été très intéressant. Ils sont passés de 14% de plaintes pour viol, je crois, à 68%. Et ça continue d'augmenter. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ce petit effort. Et les autres maisons des femmes, elles ont pareil. Il faut de la santé sexuelle, il faut de la violence. Quand elles sont dans une région où il y a beaucoup de migrants, donc beaucoup d'excisions, ça vaut la peine d'avoir une unité d'excision. S'il n'y en a pas, ça ne vaut pas la peine. Et on espère qu'il y aura bientôt les unités viol. Et aussi, on est en train de signer avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur un protocole disant que dans toutes les maisons des femmes, il doit y avoir la police qui prend les plaintes.
Est-ce que, mesdames autour du plateau, vous voulez ajouter une dernière chose ?
Moi, je veux simplement remercier tous ces participants, remercier encore une fois Rada, le Studio Zelle, madame aussi. Et puis, on va laisser la place peut-être à la pièce de théâtre.
Oui, tout à fait.
En effet, on arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir partagé cette parole.
Et donc oui, on va laisser la place au collectif de l'âtre et à leur super pièce. Et nous vous souhaitons une très très belle soirée, une très belle lutte pour le droit des femmes. Et on se retrouve évidemment dans la rue mercredi 8 mars pour la grève des femmes à 14h30 à la préfecture.